J'ai eu le plaisir de recevoir Aziz Dougaz, le numéro 1 tunisien qui venait tout juste de perdre en qualification à l'Open d'Australie. Il a gagné deux matchs et il s'est incliné au troisième tour contre Prismic, le Croate qui jouera Novak Djokovic d'entrée à l'Open d'Australie pour le tableau principal. Donc forcément, un petit peu de déception chez Aziz. Mais franchement, cette interview est passionnante. On découvre un joueur avec beaucoup d'humanité, de bienveillance, qui veut vraiment aider les autres, qui a eu des modèles comme Malek Jaziri et Ons Jabeur. Il va nous parler de ses obstacles, de ses réussites et surtout de ses ambitions. Je t'en dis pas plus et je te laisse avec Aziz Dougaz. Bonjour Aziz, bah merci pour cet échange. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas?
Donc, je m'appelle Aziz Dougaz, j'ai 26 ans, je suis 225e mondial et je suis tunisien.
On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, sachant que là, tu es à Melbourne. Ce matin encore, tu joues au niveau des qualifications, tu as gagné deux matchs, donc deux très bons matchs en 2-7 et tu t'es incliné en 2-7, 6-3, 6-4 contre Prismic. Quelles sont tes sensations un petit peu à chaud? Forcément un petit peu déçu, j'imagine.
À chaud, c'est sûr qu'il y a de la déception sur le match de ce matin, surtout que bon, finalement, la Prismic Kimba joue Djoko au premier tour, donc ça aurait été vraiment un rêve de jouer Djoko au premier tour ici. Donc après, un peu déçu bien sûr du résultat, mais il faut quand même que je garde le positif. C'est une semaine qui reste quand même positive. C'est mon premier dernier tour en Grand Chelem. C'est à ma première participation à Melbourne, donc il y a quand même pas mal de positifs à en tirer, même si bien sûr à chaud, il y a plus de déception que de satisfaction là.
Et quelles sont les sensations un peu de cette semaine par rapport à ton jeu? Est-ce que tu as confirmé un peu les sensations que tu avais à l'entraînement par rapport à cette intersaison? Comment tu te sentais en Australie?
En fait, vu que c'est le premier tournoi de l'année, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On a eu quand même une pré-saison assez bonne. J'ai eu aussi une petite blessure que j'ai dû guérir en fin d'année. Donc, j'ai fait des traitements et notamment une injection au coude. Donc, j'avais vraiment pas d'attente particulière par rapport à mon niveau de jeu. Et puis, j'ai été vraiment, je veux dire, agréablement surpris. Même les jours avant le début du tournoi, j'étais pas très confiant et sûr de mon jeu, mais dès que les matchs ont commencé, ça s'est mis en place de mieux en mieux, et puis j'ai réussi quand même à faire deux bons matchs, et malheureusement ça n'a pas suffi aujourd'hui, je suis tombé sur un très bon joueur aussi qui a fait un super match, mais c'est sûr que ça donne de la confiance et l'envie de retourner au travail et puis de revenir plus fort.
Et qu'est-ce qui t'a manqué du coup sur ce match contre Prismic? Est-ce que tu arrives à mettre en avant voilà, certains points d'amélioration?
Je pense finalement, bah, ça se joue sur un break dans chaque set et sur les deux jeux où je me fais breaker, c'est vraiment des jeux où j'ai commis pas mal d'erreurs. Les deux fois, je rate une volée facile plus une double. Donc en fait, c'est deux jeux où je manque un peu peut-être de concentration et de rigueur qui me coûtent vraiment cher. Et après, lui, le remettre dans le jeu et forcément, il fait deux, trois bons points à chaque fois pour breaker. Donc je pense que c'est vraiment garder plus de constance sur mes jeux de service. Et puis, aujourd'hui, c'est la première journée où il faisait vraiment chaud. Je trouve que ça m'a touché un peu plus que lui physiquement. J'avais plus de mal à être explosif et à mettre mon tennis en place.
Et du coup, est-ce que, parce que dans le deuxième set, donc tu te procures une balle de break juste avant de te faire breaker, est-ce que c'est un mini tournant ou ça n'a aucune conséquence pour toi?
C'est clair, c'est un mini tournant parce qu'à ce moment-là, je pense que je mène 2-1. J'ai une balle de break qui se joue sur l'échange, donc je retourne et c'est plus ou moins ouvert dans l'échange. Et le jeu d'après, je mène 30-0, je me fais breaker. Donc à 1-2 points près, j'aurais peut-être dû être 4-1 au deuxième set. Et finalement, je me retrouve à 3-2 contre break. Donc après, j'ai essayé de rester quand même dans le match. J'ai essayé de le forcer à servir le plus de jeux possible. Donc j'ai gardé mes jeux de service. Mais je ne me suis pas vraiment procuré une grosse chance de break sur les jeux d'après. Je pense aussi que le fait d'avoir joué peut-être deux gauchers sur les deux premiers matchs, j'avais l'impression d'être un peu déréglé au retour et du fond de court par rapport aux deux matchs d'avant. C'est toujours une trajectoire de balle différente, un effet différent. Donc, je trouve que ça, peut-être aussi, ça m'a un tout petit peu déstabilisé.
Et vu que tu l'as joué pour terminer sur ce match, sur Prismic, ou qui est assez jeune, le Croate, où on dit beaucoup que c'est l'avenir aussi, c'est le futur, et potentiellement avec l'Alcaraz, etc., par rapport à sa jeune expérience et ses résultats, qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui as pu vraiment matcher contre lui?
Je pense déjà que physiquement, il ressemble vraiment pas à un athlète de 18 ans. déjà, il est déjà très très fort. Là, moi, je l'avais vu en septembre en Challenger. Je l'ai revu là. Je pense qu'il a dû reprendre 5 kilos de muscle. Donc, je pense qu'il avance vraiment à très grande vitesse. Il a beaucoup beaucoup d'armes dans son jeu maintenant. Jusqu'où il va aller et en combien de temps, l'avenir nous le dira. Mais je pense que ouais, c'est vraiment un joueur qui a tout pour aller très très loin et pour continuer à très vite grimper au classement.
Et du coup, là, toi, t'es à Melbourne. Fais-nous un petit peu rêver par rapport à ton expérience que tu as pu avoir à l'US, à Wim. Comment ça se passe, l'atmosphère de l'Open d'Australie? Il y a beaucoup de bons échos. Est-ce que c'est confirmé? Est-ce qu'en tant que joueur, c'est quelque chose que tu ressens, toutes ces bonnes énergies, ce public déchaîné?
Bah, moi, je vais comparer par rapport à Wimbledon et l'US. Je n'ai pas encore fait Roland, j'espère que ce sera le cas en mai. Et je dirais que c'est le meilleur Grand Chelem, en tout cas vécu par moi. Je pense que déjà, c'est en début d'année, il fait beau. Et puis vraiment, l'organisation est vraiment très à l'écoute des joueurs. Ils font vraiment tout pour que les joueurs se sentent bien. Ils appellent ça le Happy Slam aussi. Donc, je pense que c'est pour une raison. Et puis voilà, Wimbledon, je vais dire que c'est le grand chelem que j'ai préféré le moins dans les qualifs. C'est vrai que l'expérience dans les qualifs, on ne se sent pas vraiment en train de jouer un grand chelem parce que c'est hors site, c'est à Roehampton. Donc c'était pas l'expérience qui m'a fait le plus rêver, mais je dirais ici, c'était vraiment top. Tout a été top du début à la fin. Et puis voilà, j'ai vraiment envie de revenir plus fort l'année prochaine et puis rentrer dans les tableaux de Grand Chelem pour pouvoir un peu expérimenter tout ça.
Et justement, bah, pour finir sur cette partie introductive, comment tu qualifierais ton style de jeu pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de te voir jouer? C'est quoi ton style de jeu?
Déjà, je pense que je suis un joueur très agressif et puis mes points forts vont être le service et le coup droit. Donc j'essaie vraiment de tout construire autour de ces deux coups-là. Et d'être le plus agressif possible. Je pense que j'ai des progrès à faire à la volée pour passer un cap aussi, pour aller chercher plus de points à la volée. Mais je pense que mon style de jeu est plutôt plutôt clair. Gaucher, gros service. Et puis j'essaie vraiment de m'appuyer sur mon coup droit aussi. J'arrive à générer quand même beaucoup en coup droit. Donc je m'appuie sur ces deux armes.
On va revenir un petit peu en arrière. Comment toi, Aziz, t'as été introduit au tennis et quel a été un petit peu ben, ton parcours pour devenir joueur professionnel?
Moi, j'ai commencé le tennis à 5 ans. Ça s'est fait. Mon papa jouait vraiment pour le plaisir au tennis. Et puis, je me suis trouvé dans le club avec lui. J'ai commencé à essayer de frapper dans la balle. Et ça a commencé comme ça. J'ai été repéré par un des coachs du club qui avait demandé à ce que je revienne faire des entraînements, des tests. Et puis, ça a vraiment été. J'ai vraiment accroché dès la première frappe de balle jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours été vraiment passionné, amoureux du tennis. Après, je pense que j'ai un parcours assez aussi particulier par rapport à tous les joueurs qui se retrouvent en Grand Chelem. Je viens d'un pays qui certes maintenant a une grosse culture tennis avec 11, et c'est un sport vraiment qui est vraiment en train d'énormément gagner en popularité en Tunisie. Mais finalement, je suis que le deuxième joueur de l'histoire à faire des Grands Chelems chez les hommes après Malek Jaziri. Donc c'est pas une culture, c'est pas des choses qui sont banalisés en Tunisie. En junior, j'étais parmi les 50 premiers. J'ai joué tous les grands chelems en junior. Et ça m'a ouvert la porte pour les universités aux États-Unis. Initialement, je voulais vraiment passer professionnel après mon parcours en junior. Mais je pense que c'était vraiment la meilleure décision à prendre. À 18 ans, j'avais vraiment pas du tout l'environnement propice pour passer sur le circuit. J'avais pas de sponsor derrière moi. J'avais pas d'entraîneur. Pas de moyens financiers pour pouvoir me lancer sur le circuit. Donc, les États-Unis m'ont vraiment permis de me développer en tant que joueur et d'avoir une expérience aussi d'homme qui a été vraiment top pour après me relancer sur le circuit avec plus de confiance et un meilleur niveau pour aussi aller plus vite.
Et du coup, tu l'as évoqué, ben, cette fédération qui a un petit peu moins de moyens, où c'est un peu plus compliqué. Comment tu l'as perçu et surtout comment tu as fait pour surmonter tout ça par rapport à ton regard? Donc là, tu as parlé voilà, des États-Unis, le fait que tu as fait ce choix stratégique, mais comment on fait face à tout ça?
C'est clair qu'au début, en étant jeune, ça crée beaucoup de limites mentalement parce que vu que personne l'a fait, vu que les gens autour n'y croient pas vraiment, donc ça forcément, c'est envisager d'être top 50 ou top 100, c'est pas un rêve commun, je dirais, quand moi j'ai commencé à jouer au tennis en Tunisie. Après, maintenant, je pense qu'il y a vraiment un impact énorme d'Anse et de Malek. Et aujourd'hui, on a une Fédé qui a vraiment beaucoup plus de moyens et qui, moi en tout cas, ils sont vraiment à fond derrière moi. Ils sont en train de me soutenir du mieux qu'ils peuvent depuis 2 ans. Et ça fait vraiment une énorme différence d'avoir une Fédé derrière moi. Mais c'est clair qu'en grandissant, ça crée beaucoup de limites en fait, parce que finalement, tu regardes autour de toi et tu te rends compte que la plupart des joueurs vont arrêter le tennis à 15-16 ans pour se concentrer sur leurs études. Et que c'est vraiment pas dans la mentalité ni des joueurs ni des parents de se dire bon bah on peut tenter l'aventure, on peut croire au rêve. C'était plus mais en fait Aziz, qu'est-ce que tu fais à essayer de jouer au tennis, à essayer de devenir professionnel? Vaudrait mieux que tu te concentres et que tu te focalises à devenir médecin ou avocat ou ingénieur. Il n'y a pas d'avenir dans le tennis. Pense pas que toi ça va tourner différemment. Donc c'est je pense c'est beaucoup de limites jeunes. Mais encore une fois, je dis maintenant, heureusement qu'on a une Fédé qui est vraiment solide et qui est vraiment derrière moi. On a une présidente aussi qui est vraiment dévouée et qui fait, en tout cas moi, personnellement, on a une très bonne relation et tout se passe très bien maintenant depuis 2 ans, heureusement.
Et du coup, peut-être sur le moment, bah, on peut le voir comme un challenge, des difficultés, mais est-ce que tu arrives à en tirer du positif maintenant? Je pense notamment sur l'aspect mental. On sait que le tennis est un sport avec énormément de mental sur les matchs par rapport à tout ce que tu as traversé, et te dire que tu t'es accroché parce que tu aurais très bien pu devenir médecin, avocat, comme tu l'as dit, mais toi, tu t'es accroché, tu es allé au bout de tes rêves. Et est-ce que du coup, ça te sert maintenant et tu arrives vraiment à en tirer du positif?
C'est clair, je pense que la première leçon que j'ai acquérie grâce à ça, c'est vraiment de persévérer. Quand je vois tous mes amis, quand je reviens par exemple en moins 12, en moins 14, je réalisais que chaque année, en fait, le lot diminuait. Par exemple, en moins de 14, je pense qu'on était un groupe de 10 joueurs en Tunisie qui avait un très très bon niveau. Et puis, au fur et à mesure du temps, je vois qu'à 15 ans, finalement, on n'est plus que 5 parce que les autres ont décidé d'abandonner. À 16 ans, on restait plus que 3. À 17 ans, on était deux, et puis à 18 ans, j'étais le seul. Donc, je me dis que chaque année, en fait, j'ai persévéré, j'ai peut-être cru plus en moi que les autres. J'ai aussi peut-être eu la chance d'avoir des parents qui ont poussé et qui ont cru en moi. Je pense qu'il y a une chose très, très compliquée pour des parents de se dire, bon, on va tenter ce rêve-là, même si ce n'est pas une carrière plus ou moins tracée, logique. Il n'y a rien de logique, je trouve, dans le tennis. En fait, il n'y a aucune garantie. Il y a aucune certitude de réussir, donc c'est vraiment beaucoup de courage, je trouve, de la part de mes parents, de m'avoir laissé vivre ce rêve-là, parce que moi, finalement, en tant que jeune, moi, le tennis, c'est mon rêve, c'est ma passion, donc j'ai pas trop réfléchi au pour et au contre, mais je pense de leur part, avec eux aussi leur vécu, leur carrière professionnelle, ils ont pu se dire, bah, en fait, il n'y a rien de rationnel dans ce qu'on est en train de faire. Autant prendre des décisions plus logiques et aider notre enfant à aller vers d'autres chemins. Donc voilà, je les remercie beaucoup. J'ai eu la chance de les avoir. Et puis, comme j'ai dit, ça m'aide beaucoup à persévérer. J'ai pas eu un chemin facile. J'ai eu beaucoup d'obstacles. Mais je trouve qu'au fur et à mesure de mon chemin, les choses s'éclaircissent. J'arrive à être de mieux en mieux encadré, comme j'ai dit, par la fédération. J'ai aussi signé avec une agence de management Edge depuis 2023 et qui apporte vraiment énormément de stabilité et de sérénité dans mon projet, chose que j'ai jamais eue auparavant. Donc je trouve que vraiment là, depuis quelques mois, quelques années, les choses se mettent de plus en plus en place. Surtout là, depuis un an, ça, tout va de mieux en mieux pour moi. Donc je trouve que ça vraiment... Le fait d'être plus serein, plus tranquille, avoir des gens autour de toi qui croient en toi, qui ont les compétences nécessaires pour te pousser et aller chercher tes rêves, ça m'a vraiment donné beaucoup de calme et encore plus d'envie de réussir.
Et je pense que tous les efforts finissent par payer. C'est vrai que ce n'est pas à l'instant T, mais là, tout ce que tu as mis en place sur les années ben, précédentes, tu en vois un petit peu les fruits maintenant, tu l'as dit avec Edge. Et justement, qu'est-ce que Edge t'apporte dans ta carrière? Est-ce que voilà, ça te permet un peu de te propulser, avoir un peu plus de confort par rapport à ce que tu as vécu précédemment?
Déjà, clairement, je pense que c'est le rêve de chaque joueur d'être encadré par des gens qui sont au top dans leur domaine d'expertise. Avec Edge, j'ai vraiment accès à ça. J'ai vraiment des gens qui sont déjà passionnés par le tennis, qui croient dans le sport. Et puis, il y a vraiment un staff qui est étoffé et qui excelle dans ce qu'ils font. Donc, c'est sûr qu'avoir vraiment un staff et des personnes aussi dévouées, ça me rassure et ça me donne une stabilité et une envie de réussir que j'ai jamais eu auparavant. Donc là, c'est sûr que, comme j'ai dit, les choses commencent vraiment à se mettre en place avec ma Fédé et Edge. Je trouve que là, j'ai vraiment de plus en plus de moyens et de cartes en main pour vraiment ex faire exprimer mon talent, chose que j'ai jamais eu, je pense, dans le passé. Donc, c'est là, je pense, que je commence à passer des étapes dans le classement, dans mes résultats, et on va clairement, l'objectif est loin d'être atteint. Donc, je vais essayer de m'en servir au max, de vraiment tirer le maximum des compétences des gens qui sont derrière moi et qui m'entourent, et les pousser aussi à continuer à s'investir et à y croire dans mon rêve.
Et du coup, tu parlais de plusieurs obstacles que tu as rencontrés. Ça a été quoi le plus grand obstacle contre lequel ouais, tu as dû faire face tout au long de ta carrière?
Déjà, il y a l'obstacle financier, le fait de pouvoir se permettre d'avoir un coach, d'avoir un staff, de voyager. Donc, ça, c'est clair qu'en plus en Tunisie, vu la dévaluation de notre monnaie, ça. On a vraiment un pouvoir d'achat qui est terrible sur l'échelle internationale, donc ça complique aussi énormément les choses. Et puis voilà, pas de sponsor. En étant jeune, voilà, pas de sponsor. À l'époque, la Fédé avait pas beaucoup de moyens, j'avais pas aide, j'avais pas de personnes qui ont forcément cru en moi assez pour investir en moi financièrement. Donc je pense que ça, c'est le premier obstacle qu'un joueur de tennis rencontre, le volet financier. Et puis après, c'est aussi le fait de pouvoir s'encadrer et s'entourer de gens qui excellent dans leur domaine. Avec Edge, par exemple, bah, maintenant j'ai mon coach tennis, j'ai un coach physique, on a un nutritionniste, on a un agent, on a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est stats dans le tennis. Donc c'est vraiment incroyable d'avoir autant de ressources entre mes mains. J'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu un coach de tennis qui a été constamment avec moi, j'ai jamais eu ce luxe-là. Donc là, c'est clair qu'avec Edge, avec la Fédé depuis un moment, j'arrive à me permettre de faire ça. Et c'est ça qui va me, je pense, me permettre d'atteindre un palier supérieur dans le tennis.
Tu parlais du volet financier qui est forcément l'un des plus grands obstacles auxquels les joueurs de tennis font face. Par rapport à ton année passée, donc 2023, pour qu'on ait une idée concrète un petit peu de combien ça coûte, cette saison 2023, combien est-ce qu'elle t'a coûté par rapport à tous les déplacements, les voyages, etc.
Donc, ouais, ma saison 2023, elle m'a coûté 80 000 euros en faisant mes comptes de fin d'année. Et puis, quand je vois mon prize money de l'année, en fait, sur le site de l'ATP, par exemple, ça va dire que c'est peut-être à 105 000 dollars. Mais donc, déjà, c'est en dollars, pas en euros. Et puis, il n'y a surtout pas les taxes qui déduisent, en fait. Donc, c'est le montant avant taxes. Donc, après taxes, j'ai dû gagner peut-être 70 000 euros. Donc, en étant 230e mondial, en ayant joué deux grands chelems et passé un tour à l'US Open, j'étais déjà en perte. Voilà, c'est ça un peu la réalité du tennis. On n'a pas de sponsor et qu'on n'a pas de soutien financier. Donc, heureusement, en 2023, c'était le cas pour moi. Je pouvais compter sur Edge et sur ma Fédé pour m'aider et m'apporter un soutien financier qui, sans ça, en fait, c'est impossible. J'aurais jamais pu investir autant et voyager autant dans l'année.
Alors, en tout cas, c'est bien que ça puisse un peu s'accélérer et que là, ben, 2024, on va voir ce que ça va donner et on te souhaite plein de bonnes
Puis
choses.
clairement, après, ça dépend, je pense, que des dépenses d'un joueur. Moi, je pense que je suis un joueur qui fait, par la force des choses, qui arrive à vraiment très bien budgétiser ma saison et qui arrive à vraiment.
Optimiser.
J'ai très peu de dépenses inutiles, en fait. Je vis chez mes parents en Tunisie, donc zéro, zéro loyer. Donc déjà, ça, c'est vraiment sauver pas mal de budget parce que la plupart des joueurs, bah, comme toutes les personnes dans le monde, ils ont un appart, ils ont une base, ce qui est pas le cas pour moi. Donc déjà, c'est vraiment une économie considérable. Et puis voilà. C'est rien, rien d'extravagant. Donc, on fait vraiment avec mon coach. On investit vraiment là où il faut, mais on fait vraiment pas de folie. Pour un titre d'exemple, la plupart des joueurs, je pense, pour l'Australie, se permettent de voyager en business. Ça n'a pas trop été notre cas. Donc voilà, c'est vraiment pas. Quand je dis 80 000 euros, peut-être que ça, c'est un montant qui paraît énorme, Mais en fait, je pense que je suis parmi les joueurs qui dépensent le moins dans mon classement.
Et du coup, par curiosité, ces 80 000 euros, ça couvre à peu près combien de tournois dans l'année 2023? Et surtout, quel est le pôle de dépenses le plus élevé?
Le pôle de dépenses, je dirais, le plus élevé, c'est le coaching. Donc, faut payer le coaching. Et puis après, c'est les frais de voyage. Donc, tous les billets d'avion, tous les repas, toutes les chambres d'hôtel, et tous les à côté, le cordage, rien que le cordage, ça chiffre à une vitesse qui est assez phénoménale. Bah, la raquette est à peu près à 30 dollars en Challenger, 25-30 dollars. En moyenne, par semaine, il y a, on va dire, 10-15 raquettes de fête. Donc, c'est déjà un budget de 400, 450 euros par semaine. Puis, on multiplie par 30 tournois, ça fait quand même, c'est quand même des chiffres assez hauts. Puis, pareil, les avions, chaque semaine, sur le circuit Challenger, il y a très rarement des semaines qui se suivent au même endroit. Donc ça fait des billets d'avion chaque semaine pour moi, pour mon coach. Donc ça va très vite. Mais je dirais oui, 80% des dépenses seraient entre le coaching et les frais liés au voyage.
Et du coup, ça couvre une trentaine de tournois
C'est
sur ce
ça, je
qu'on a dit
dirais ça
2023.
couvre. Moi j'ai fait 32-33 tournois, c'est ça.
Ok, donc comme ça permet vraiment qu'on ait une idée claire par rapport au volet financier. Donc on a vu tes obstacles et par rapport à tes réussites, c'est laquelle dont tu es le plus fier? On a vu ce sacre en fin d'année là au championnat enfin au championnat, voilà, un championnat arabe qui t'offre
Championnat.
les portes pour Doha sur cette saison 2024. Est-ce que c'est l'une de tes plus grandes réussites? Comment est-ce que tu vois les choses? C'est quoi ce dont tu es le plus fier en ce moment?
Clairement, moi, mon rêve, depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai touché une raquette de tennis, c'est de jouer les tournois les plus prestigieux et de vraiment me mettre dans cette catégorie de joueurs-là. Donc là, déjà, commencer à jouer les grands chelems, c'était une fierté d'être parvenu à le faire. J'ai commencé à le faire à Wimbledon, donc on a fait Wimbledon, l'US, l'Australie, et puis j'espère qu'il y en aura, que la série va être longue. Donc ça, je peux dire que c'est vraiment une fierté de pouvoir se mettre dans cette catégorie de joueurs-là déjà. Et puis oui, le titre en décembre, c'est sûr que c'est un titre important, car ça me donne la wildcard pour l'ATP 250 à Doha. Donc ça va être mon premier tableau d'ATP. Je suis super content de comme j'ai dit, le rêve, c'est vraiment de jouer ces tournois-là et de pouvoir se mesurer aux meilleurs joueurs du monde. Donc c'est clair qu'une wildcard pareille, ça ouvre beaucoup de portes. Et j'espère que, en tout cas, je vais faire au mieux pour m'être préparé et montrer vraiment mon potentiel et puis pouvoir passer des étapes cette année.
En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Tu as parlé de tes parents, tu as parlé aussi de Ons et de Malek enfin, par rapport à ces joueurs qui ont porté vraiment le pays et toi qui t'ont fait ce cadre. Est-ce que ce sont tes modèles, c'est eux qui t'ont inspiré ou est-ce qu'il y a d'autres modèles voilà, qui ont inspiré, qui ont forgé le caractère d'Aziz et ce joueur que tu es maintenant?
Je pense que Malek, c'est vraiment le modèle et l'exemple parfait pour moi parce que on a vraiment, je pense, une histoire qui se ressemble. On n'a pas été top 10 en junior, on a été bon, mais on n'a pas été assez bon pour avoir tous les sponsors du monde, contrairement à Ons, qui, elle, a été vraiment extrêmement forte dès son jeune âge et qui est dans une catégorie vraiment hors norme, ce qu'elle fait. Donc Malek, c'est vraiment quelqu'un, en regardant sa carrière, j'arrive vraiment à me voir et à travers sa carrière. Et puis, grâce à lui, bah, j'ai pu y croire, j'ai pu me dire que y croire encore plus, parce que je pense que j'y croyais vraiment au fond de moi dès le départ, mais voir réussir dans sa carrière, être top 50, arriver à gagner des top 10, des top 5, ça m'a vraiment ouvert des portes. Et puis, comme j'ai dit, c'est quelqu'un avec qui je pense que je partage beaucoup de choses dans le processus de la carrière. Et c'est quelqu'un aussi sur qui je peux compter. C'est mon capitaine de Coupe
C'était
Davis,
le
c'est un grand
Davis.
frère pour moi. Donc c'est vraiment quelqu'un. J'espère que je vais avoir vraiment besoin de lui dans ma carrière pour arriver à exploiter au maximum mon potentiel.
Et du coup, est-ce que tu es proche aussi de Ons par rapport à. Bah, j'imagine que ça a un peu bougé
C'est clair,
tout ça par rapport à ses résultats, ses finales en Grand Chelem, etc. Ça a fait
on
accélérer
c'est
un petit peu
clair
les choses.
que. Ouais, c'est clair qu'on est très proche. C'est aussi quelqu'un de super humble, qui est super accessible, qui est super gentil. Donc ça, c'est déjà, je pense, une qualité rare pour une championne de son standing. Après, je pense que les gens peut-être réalisent ou pas, je sais pas, mais je pense que ce qu'elle fait, c'est vraiment miraculeux d'arriver à avoir la carrière qu'elle a. quand je vois que des gens arrivent encore à la critiquer et à penser que en Tunisie, il y a des gens qui la critiquent, qui pensent encore que ça a été un échec, mais pour moi, quand je lis ça, c'est vraiment aberrant parce qu'ils sont.
Elle est critiquée en Tunisie, du coup?
Bah, je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas trop en fait la grandeur de ce qu'elle arrive à accomplir et qui ont envie peut-être qu'elle réussisse encore plus. Du coup, je pense qu'elle est, elle est pas assez, elle est admirée, c'est sûr et certain, mais je pense que les gens réalisent même pas en fait l'ampleur et la grandeur de ce qu'elle est en train d'accomplir. Moi, étant un joueur de tennis venant de la Tunisie, ce qu'elle fait, c'est vraiment exceptionnel. Et puis le fait de croire et de vouloir gagner un grand chelem, je pense que c'est vraiment du domaine de l'inimaginable pour un pays comme la Tunisie. Qu'on voit qu'il y a des pays comme, bah, pas aller chercher loin, je pense comme la France qui investit énormément dans le tennis et qui n'arrive toujours pas, depuis énormément d'années chez les hommes, d'avoir un vainqueur du grand chelem. Chez les femmes, je pense qu'il y a eu Mauresmo, Bartoli sur les 30 dernières années. Donc, comparer et se dire que la Tunisie arrive à titiller les grands chelems et que quand c'est fait trois finales, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment une carrière hors norme qu'elle fait. Et puis j'espère que les gens vont de plus en plus se rendre compte en fait que ce qu'elle fait, c'est phénoménal.
Toi, tu m'as parlé de tes ambitions de participer au plus grand tournoi du monde. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu as envie de faire, voilà, en tant que joueur professionnel? Est-ce que tu te mets des limites, c'est nos limites, ou est-ce que tu te dis, bon, bah, j'aimerais, voilà, être top 50, je ne sais pas, pouvoir vivre confortablement par rapport à tous les obstacles que j'ai passés, ou est-ce que c'est, bon, je vise le top 10, je vise un titre, un gros titre? Comment ça se passe? Quels sont tes objectifs, tes rêves?
Moi, mon rêve dès le départ, en fait, ça a été d'être dans les 50 premiers. C'est un objectif que je me suis fixé tout jeune. C'est un rêve. Donc, je m'accroche à ce rêve-là, j'y crois. Après, comme tu dis, je pense que des fois, il n'y a pas de limite. Malek l'a prouvé, il a réussi à faire des finales sur le circuit ATP. Donc, oui, mon rêve, ça serait d'être dans les 50 premiers et pourquoi pas aller chercher un titre sur le circuit principal pendant ma carrière.
Et en 2024, du coup, tes objectifs?
En 2024, l'objectif de départ, c'était déjà de se qualifier dans un grand tableau de Grand Chelem. Finalement, on n'est pas très loin en Australie, on est au troisième tour. Il y a beaucoup de positifs à en tirer. Donc ça, c'était un objectif. Les deux autres objectifs, c'est de gagner un Challenger cette année et puis de rentrer dans les 150 premiers en fin d'année.
Et on a beaucoup parlé du tennis. Qu'est-ce qui te passionne dans ce sport?
Moi, je le dis souvent, en fait, c'est un rêve, c'est vraiment une passion, c'est l'amour du tennis, parce que si je devais être rationnel, en fait, je pense que j'aurais arrêté le tennis depuis un moment, parce que j'ai fait des études, j'ai toujours été aussi assez bon à l'école, et puis je pense que pour vraiment se lancer dans une carrière professionnelle au tennis, il faut des fois essayer de se déconnecter du côté rationnel, parce que bon, en fait, tu fais un job, mais à moins d'être dans les 150 premiers, en fait, tu gagnes pas d'argent. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un job? C'est pas trop la définition d'un job. Donc, je pense que pour moi, finalement, ce qui m'anime, c'est vraiment l'amour du tennis et ce rêve qui est en moi, qui me pousse à continuer. Parce que, comme j'ai dit, ouais, si je devais être rationnel, c'est clair que là, les choses vont mieux, en tout cas. Même si je devais être rationnel, je pourrais être un peu plus rassuré avec Edge, ma Fédé et puis la participation dans les grands chelems. Mais c'est clair que ce n'est pas le côté rationnel qui m'anime pour continuer à jouer au tennis, c'est vraiment plus mon cœur et cette flamme qui est à l'intérieur de moi qui me pousse et qui me motive tous les jours à m'entraîner et puis à jouer au tennis.
Il y a le tennis, j'imagine ça occupe une grosse partie de tes journées, mais est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt, des formes d'exutoire pour déconnecter un petit peu de tout ça?
Moi, déjà, je pense que je suis fan de sport. Je regarde vraiment énormément de sport à la télé dès que j'en ai l'occasion. Le foot, la Formule 1, l'handball, le rugby. Donc, je suis vraiment très, 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 très sport depuis très jeune. Donc, je pense que le sport, quand même, occupe une grande partie de ma vie. Après, ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est, je pense que le tennis nous donne une chance incroyable. C'est vraiment de voyager et de voir les quatre coins dans le monde. Donc, c'est vraiment d'arriver à des fois me détacher, visiter un peu, profiter aussi un peu de l'expérience humaine que je vis. Des fois, ça peut être une après-midi off, une petite visite d'une journée. Et puis vraiment aussi se dire que bon, c'est top d'être joueur de tennis, c'est incroyable, c'est une chance que j'ai. Et il faut en être fier. Mais voilà, essayer de se dire aussi, bah, autant en profiter et découvrir un peu tous ces pays-là, toutes ces cultures-là, parce que finalement, c'est ça ce qui forge une personne. Et je pense que c'est vraiment le sport, c'est vraiment l'école de la vie, surtout le sport de haut niveau.
Et justement, tu arrives à le trouver, cet équilibre entre toutes les exigences qu'il y a sur le circuit ben, professionnel, ton métier, être joueur de tennis, et aussi ben, ta vie personnelle.
Je pense que j'y arrive de mieux en mieux. C'est sûr que là, vu que je suis mieux encadré déjà, j'ai moins de soucis à gérer, j'ai moins de tâches à faire. Donc, j'arrive de plus en plus à arriver à me détacher un peu du tennis et des fois savoir aussi profiter du voyage ou d'une petite journée de visite et aussi essayer d'avoir une vie aussi normale, même si c'est pour des parties très courtes. J'essaie maintenant de revenir aussi, passer un peu de temps en Tunisie avec ma famille dès que je peux, passer un peu aussi de temps avec ma copine dès qu'on a l'occasion. Donc c'est vraiment des choses que j'essaie de faire de mieux en mieux, de gérer de mieux en mieux. Et c'est clair que le fait d'être entouré maintenant, comme j'ai dit, par Edge, ma Fédé, et puis jouer en Grand Chelem, bah, ça facilite les choses, c'est sûr, grandement.
Et là, donc, tu es à Melbourne. C'est quoi la suite la semaine prochaine, dans 2 semaines? Comment ça va se passer?
Bonne question. En fait, c'est un peu la vie d'un joueur de tennis. J'ai fini à Melbourne aujourd'hui. J'ai aucune idée où est-ce que je vais jouer en tournant la semaine prochaine. Pour l'instant, je suis inscrit à Tenerife en Challenger, qui est, on va dire, assez loin de Melbourne, qui est de l'autre côté de la terre, donc dans les îles Canaries, à côté du Maroc. Et je sais pas encore si je vais là-bas ou si je vais sur un Challenger en Thaïlande. Ou si je vais sur un 25 000 au Qatar. Donc, c'est vraiment trois options qui sont un peu à l'opposé. Et on est vendredi après-midi et j'ai toujours pas décidé, pas vu mes billets d'avion. Faut que je puisse gérer ça avec mon coach, en discuter. Mais voilà, c'est un peu le quotidien en fait qu'on vit. Vraiment être dans l'incertitude, pas savoir où on va, quand on va, ou comment s'organiser. Donc, vraiment très compliqué. Pour les gens qui ne sont pas dans le tennis, je trouve que c'est vraiment des fois, ça paraît un peu fou. Pour ma mère, pour elle, des fois, c'est fou que je lui dise, bah, en fait, je pars ce soir, mais je ne sais pas où. Je sais pas vers quel pays, je ne sais pas à quelle heure est mon vol. Donc, c'est sûr que
Ouais, c'est.
c'est
T'en
une
as qui
vie qui est.
paniquent parce que le soir ils savent pas ce qu'ils vont manger et là on est sur, ouais, sur quelque chose d'autre.
Exactement. Donc, ça permet, comme quoi tout est relatif, mais ça permet aussi de se dire, bon, bah. Déjà, c'est une chance, je ne vais pas m'en plaindre, c'est une chance de vivre cette vie-là et de vivre de sa passion et d'être animé par un rêve. Mais c'est clair que le tennis, quand même, ça donne beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'instabilité dans la vie de tous les jours.
Et j'en profite là, comment vous allez faire le choix en fait? Vous allez vous poser, vous dire ok, les billets d'avion c'est ça pour aller là, 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 ce qui est le plus économique, comment ce choix va être acté en fait?
Donc déjà, oui, il y a les billets d'avion qu'on doit checker, qu'on doit voir, parce que finalement, ça arrive très vite. On est vendredi à Tenerife, ça serait pour jouer mardi, en Thaïlande mardi, et au Qatar pareil mardi. Donc, il faudrait voir aussi les temps de voyage. Je pense que le voyage pour arriver à Tenerife, c'est un peu plus que 30 heures de voyage. Donc, avec le décalage horaire, la fatigue, c'est pas quelque chose d'évident à gérer. Et puis, il y a aussi les listes. Donc, là, pour l'instant, je suis accepté dans le tournoi à Tenerife, mais je ne suis pas encore accepté à Bangkok, en Thaïlande. Donc, on attend aussi de voir un peu, en fonction des retraits de dernière minute, si j'arrive à être dans le tableau final là-bas, peut-être que ça serait une option un peu plus logique et facile à faire en termes de logistique. Donc, voilà, c'est toujours un peu, il y a des facteurs, il y a le facteur liste, dans quelle liste on est accepté, et puis il y a le facteur dans la logistique du voyage aussi à gérer. Et puis. Pour se mettre dans les conditions, je dirais pas optimum, mais au moins dans les meilleures conditions possibles.
C'est ultra intéressant de savoir que voilà, tout se fait, enfin tous les choix qui sont faits et pourquoi on va dans tel ou tel tournoi. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte forcément en tant que spectateur à se dire mais pourquoi il va à ce tournoi, mais c'est vrai que derrière il y a une stratégie qui est quand même bien, bien réfléchie et mûrement réfléchie. Donc ça, c'est ultra intéressant. Tu vas forcément y avoir droit un prono pour l'Open d'Australie chez les hommes et chez les dames.
Moi, je pense que Djoko est quand même au-dessus. J'ai envie aussi de le voir gagner. Je pense que c'est un champion sûr et en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui essaie vraiment d'avoir un impact sur son sport et sur le monde. pense que c'est ça qui relève aussi d'un champion. Donc je le mettrai en favori et aussi mon favori à moi. C'est pour ça que je suis vraiment encore plus déçu de ma défaite, de savoir qu'en fait j'aurais eu le droit à jouer Joko sur le Rod Laver. Ça aurait été un rêve de gamin et puis j'espère que j'aurai la chance de pouvoir vivre ça sur les grands chelems ou les ATP à venir. Peut-être que ça sera à Doha, peut-être qu'il jouera à Doha et que j'aurai Joko au premier tour. Donc j'espère que je ne jouerai pas au premier tour, j'espère que je pourrai gagner quelques matchs avant de jouer.
Ça se risque.
Mais c'est clair, chez les mecs, je dirais que c'est Joko. Et puis chez les femmes, bah, sans hésitation, ma favorite, c'est Ons. J'ai vraiment envie qu'elle gagne un grand chelem, elle le mérite. Elle fait tout pour. Et puis elle a une équipe incroyable, formidable autour d'elle. Donc je leur souhaite vraiment du fond de mon cœur d'avoir ce titre-là, quoi.
Et du coup, tu es plus Team Joko par rapport à cet éternel débat entre les Team Nadal, Team Federer, tu es plus Team Joko.
Enfant, j'ai vraiment été fan de Rafa, gaucher, et puis j'avais toutes les tenues de Rafa, tous ses pantacourts quand il jouait avec les pantacourts, tous ses débardeurs. J'étais hyper mince avec les débardeurs et tout. Je pense pas que c'était le style approprié, mais j'adorais, j'étais fan du joueur. Mais là, je pense qu'en grandissant, je penche encore plus vers Djoko parce que je trouve que voilà, ce qu'il fait sur et en dehors du court, c'est vraiment exceptionnel. Il essaye vraiment d'avoir un impact sur le tennis, d'aider des joueurs. Il fait vraiment des choses incroyables en Serbie aussi pour sa communauté. Et j'espère que moi, pour moi, c'est un exemple. Et puis j'espère qu'à mon échelle, j'aurai aussi la possibilité d'aider, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment d'aider dès que je peux, quel que soit si c'est le tennis ou autre. Mais
Autre.
j'aimerais vraiment être en position plus tard dans ma carrière, soit financièrement ou par mon expérience, de vraiment donner aux générations d'après. Et voilà, contribuer un peu à mon échelle à leur futur.
C'est très important et de pouvoir essayer de voilà de d'aider un petit peu comme tu l'as dit par rapport à tous les obstacles que tu as rencontrés. Et c'est vrai que ça peut être de partager ton expérience et justement que quelqu'un qui soit passionné de tennis, qui a envie de faire une carrière là-dedans. Qui viennent de Tunisie, tu puisses apporter ton expertise sur ça. Donc, en tout cas, on te le souhaite. Et pour finir, est-ce que tu as une anecdote un petit peu, voilà, un petit peu fun à nous raconter de ce que tu as pu vivre sur le tour?
Une anecdote, il y en a pas mal qui me traversent l'esprit. Après, bon, je sais pas trop dans quel domaine, dans quel type d'anecdote, mais moi, l'anecdote, allez, je dirais, qui me revient en premier, c'est avec mon coach Yannick. Et puis voilà, tu vois, en fin d'année dernière, on est en Challenger au Canada. Je perds en quart de finale 7-6 au troisième set. Et en gagnant, j'ai assuré ma place en fait pour l'Open d'Australie. Donc le cut normalement pour l'Australian, c'est à 2,35-2,36. En gagnant, j'allais être confortable pour le cut. Donc je perds en quart de finale. Et là, je brise ma raquette à la fin du match. Je prends une amende de l'ATP. Puis je rentre à l'hôtel et je lui dis, Yann, je peux plus le faire. Il reste 2 semaines pour aller chercher le cut. J'ai 2,25 000 à la maison en Tunisie, mais j'en peux plus là. Ça fait 9 semaines de suite que j'essaye, que je joue sans arrêt les tournois. Écoute, là, c'est stop, quoi. Tu rentres chez toi à Milan, je rentre chez moi à Tunis. Et puis voilà, au diable, l'Open d'Australie. J'ai eu ma dose pour l'année. Donc voilà, il me dit, ouais. C'est la première fois, je pense qu'il était aussi. Je pense qu'il a toujours été calme. Donc c'est la première fois que je voyais vraiment qu'il était vraiment dégoûté pour moi aussi, pour nous, après cette défaite-là, parce qu'on a vraiment tout fait pour y arriver. On rate vraiment le match de ça. Et donc voilà, je vais me coucher. Et puis le lendemain, en fait, à 5 h du mat, je me réveille. Je change mon vol pour Tunis, de date. Et je lui dis, mec, j'ai demandé wildcard, je vais jouer le 25 000. J'arrive pas à dormir et puis 2 jours après, j'étais en 25 000 en Tunisie en train de me battre pour aller chercher ce cut en fait. Donc c'était vraiment. Puis après, je me dis, mais en fait, c'est complètement taré quoi. Ça fait 9 semaines que je joue en tournoi. Je suis au Canada le samedi, je prends l'avion pour rejouer mardi en Tunisie avec décalage horaire et tout. Et J'étais dégoûté. Et puis, j'ai eu un déclic comme ça pendant mon sommeil. Je me suis réveillé. Et je me suis dit, non, mais mec, c'est pas possible. Tu demandes la wildcard de 25 000, tu vas jouer et tu joues jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment le truc récent qu'on a vécu. Et finalement, on se retrouve en Australie. Dans les qualifs, on gagne 2 matchs. Donc, c'est un peu. Je dirais que ça récompense un peu les efforts que j'ai faits en fin de saison. Et puis, je lui ai promis, on s'est promis tous les deux de plus trop être dans cette situation-là, de très vite passer un cap et de et d'éviter tous ces calculs-là, tous ces cuts, et d'être vraiment borderline pour les grands chelems.
En tout cas, cette anecdote, elle est bien avec ce fil conducteur de tout ce que tu as vécu et cette combativité en fait dont tu as fait preuve tout au long de ta carrière. Et
Je
justement, on
trouve que
en
ça
parlait
résume un
maintenant.
peu ma carrière.
C'est
Ouais, je trouve
ça.
en fait ça résume un peu ma. Comme il me dit, lui, en fait, maintenant, à force de me connaître, des fois, quand il voit que je suis très dramatique après un match, il me dit, ouais, mais de toute façon, je vais rien te dire, je sais très bien, demain, tu vas te lever et on va repartir, tu vois. T'as toujours fait comme ça, t'as toujours été bon dans la difficulté. Donc, au début, il me prenait peut-être au mot. Après mes matchs, je pense que là, il me croit plus trop quand je suis un peu dramatique après les matchs. Il sait très bien que le lendemain, ou le soir même, je vais dire, mec, on repart au taquet. On a 2 vols demain pour aller en Inde pour jouer des challengers, quoi.
C'est clair, bah c'est bien de faire preuve voilà, de cette combativité. C'est aussi les hauts et les bas hein, qu'on a en tant que
C'est
joueur de
clair.
tennis où ça repart très vite parce que dès mardi, tu es potentiellement sur le court de nouveau. Donc
C'est clair.
voilà, il faut vite, vite laisser ça derrière et repartir au charbon. Aziz, sur quelle raison on peut te suivre, sur lequel tu es le plus actif pour, voilà, je mettrai tous tes liens en description pour que les joueurs puissent suivre ta carrière.
J'essaie d'être de plus en plus actif sur Instagram. Je l'ai pas été tout au long de ma carrière. Comme j'ai dit, j'avais beaucoup de choses à gérer en étant seul au début. Mais là, vu que je suis entouré d'une équipe, je vais essayer d'être de plus en plus actif sur les réseaux sociaux, de montrer aussi ce que c'est la vie d'un joueur de tennis, de partager ça. Je pense aussi que je peux avoir vraiment une communauté très tennistique qui peut, parce que bah, de fort, je, en fait, je parle 4 langues, donc je pense aussi que ça peut m'aider. Et puis, ça peut permettre aussi aux fans du tennis, un peu partout dans le monde, de voir ce que c'est la vie d'un joueur de tennis qui n'est pas top 10 et qui voyage toute l'année et qui se bat toute l'année pour arracher son rêve
Bah voilà, allez suivre le compte Insta
sur
d'Aziz pour
Instagram.
découvrir un petit peu tout ça. Je pense que
C'est ça.
c'est important et en plus, tu auras plein de choses à partager. Un grand merci, Aziz, pour ton
Écoute.
discours plein d'humanité, de combativité, de bienveillance. Ça fait vraiment plaisir et je te souhaite le meilleur pour la suite et que tu puisses atteindre tes objectifs.
Merci beaucoup. Et puis le plaisir est vraiment partagé. C'était vraiment cool de partager tout ça avec toi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler et de se voir rapidement.
Carrément, carrément, carrément. Et voilà, dès que tous tes échelons, voilà, j'aimerais bien pouvoir échanger à chaque fois que tu passes tes échelons et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci beaucoup,
C'est
Aziz.
clair. Merci, merci Constantin.